Blablamix.
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 Yeah, my neighbor, your neighbor. Can you really trust? Who can we really trust? In times like this.
C'est Blablamix.
C'est Blablamix. Blablamix.
Son ventre proéminent porte un corset d'éloignement. Son chapeau à plumes est plat. Son visage est une effrayante tête de mort. Mais brune et si féroce qu'on croirait voir quelques cornes de rhinocéros ou dents supplémentaires à son terrible maxillaire.
L'amitié est comme la lumière de l'éclair. Plus l'endroit est sombre, plus elle illumine.
Et maintenant, pour apaiser les esprits en cette journée historique et hystérique du 30e numéro de Blablamix, séance avec Renaud Vol.
On va rire. On va rire pour rien, sans raison. Alors si on vous demande pourquoi vous riez, vous faites... On va envoyer de l'énergie dans notre corps en faisant... Oh, 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 oh. On va faire maintenant le rire du cœur, on va ouvrir notre cage thoracique, nos poumons, notre cœur, et donc on va monter nos mains tout doucement, on va les laisser en bas, on va remuer les doigts comme ça, et on va monter nos bras en faisant... On va imaginer maintenant qu'on est des ogres ou des géants. Donc on va se grandir comme ça en ouvrant les bras et on va faire un rire. Maintenant on va imaginer qu'on est des princesses. On a une jolie petite robe, tous, même les garçons. Et on va faire un petit rire de princesse, on va faire... On va maintenant faire le rire du serpent. Alors le rire du serpent, on va imaginer qu'on a un serpent, on va faire... On va imaginer qu'on a une patate très très chaude dans la bouche. Oh bon. On va faire un rire silencieux. Ça, on va fermer la bouche et on va rire. Oh oh ah 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 oh oh ah 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 oh oh ah 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 ouais, ouais.
Hop, récupération. Renaud Vol, vous êtes rigologue.
Ah oui. Animateur de yoga du rire surtout.
C'est
d'abord.
C'est un métier.
Oui.
Et ça sert à quoi?
Ça sert à quoi? Faire du bien aux gens, je sais pas. Les gens ont l'air bien là dans le studio, ils ont le sourire.
Dan, est-ce que tu es bien?
Oui.
Ça sert à permettre aux gens de se détendre et à passer un bon moment ensemble, à partager un moment de bonne humeur, sans forcément parler. On n'a pas parlé. Enfin, moi j'ai donné quelques indications, mais les gens entre eux n'ont pas parlé.
Et donc vous faites des séances de yoga du rire. Qui vient à ces séances? Des gens névrosés? Des gens endettés?
Non, toutes sortes de gens qui en ont besoin. Je pense qu'on a tous besoin de rire. Donc voilà, non, il n'y a pas de profil particulier. C'est plutôt des femmes. Mais il y a quelques hommes, donc les hommes sont les bienvenus. Mais c'est plutôt des femmes, ouais, qui ont envie de prendre un temps pour eux, pour elles. Voilà.
Quel âge?
Ça va de tous les âges, mais on va dire que c'est plutôt à partir de 30 ans. et avec une bonne moyenne d'âge plutôt autour de 50. Voilà.
N'empêche, dans les années 80, à Lyon, on n'avait jamais entendu parler de yoga du rire et soudain c'est apparu. Comment on explique cette apparition?
De son invention, c'est-à-dire ça a été inventé il y a 20 ans, un peu plus maintenant, en Inde, par un médecin qui s'appelle Madan Kataria.
Tu connais Dipu, Madame Kataria?
Madan, c'est pas madame, hein, c'est un monsieur.
Bonjour Madan.
Madan.
Madan Kataria.
Tu connais?
Non.
Ouais. Il est indien, il était médecin et s'est rendu compte que ses patients allaient mieux quand ils étaient souriants et qu'ils riaient. Donc il s'est dit pourquoi pas rire juste en décidant de rire. Voilà. C'est-à-dire si je veux rire là, je fais haha, 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 haha.
Il est fou. Et scientifiquement, qu'est-ce que ça déclenche? Pourquoi ça fait du bien?
On provoque un mouvement du diaphragme, donc qui est le muscle qui nous permet de respirer. C'est une respiration qui est un peu accélérée, c'est-à-dire au lieu de faire, on fait.
Il est bien entraîné.
On accélère la respiration. On fait un massage en fait de tout l'intérieur du corps, du ventre. On masse aussi notre visage parce qu'on fait plein de grimaces, mais des grimaces positives. On déclenche la production d'hormones qui font du bien, d'endorphines. Moi, je vous passe les détails scientifiques. Donc, notre cerveau reçoit un message positif. On est en train de dire à notre cerveau, je suis heureux, je suis bien, même si au départ on fait semblant. C'est-à-dire si on fait ah 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 ah, j'ai pas spécialement de raison d'être content, heureux, il n'y a pas eu une blague. C'est juste, je dis à mon cerveau, je ris, donc je suis bien. Et c'est un cercle vertueux, si je vais bien, je ris, si je ris, je vais bien, et ça s'arrête jamais. Voilà.
Et donc si je comprends bien, le matin, il est de bon ton de rire devant sa glace pour commencer la journée.
Oui, c'est bien, on peut se faire des grimaces devant sa glace en faisant quelques « oh, ah, oh, ah, ah ».
Alors on va regarder Dipu faire des grimaces. On va écouter tes grimaces. Avec un petit son pour les auditeurs. Ah, grimace.
Ah,
o,
o, e, i, u.
Renaud, Vol, où est-ce qu'on peut vous trouver pour venir rire avec vous et
sur un site internet rira.fr.
C'est simple, ça.
Voilà.
Et juste, ça s'enseigne. Il y a une école de yoga du rire.
Il y en a plusieurs. Moi, j'ai été formé par l'école internationale du rire qui se trouve dans le sud de la France, vers Montpellier, à Frontignan.
Du coup, c'est vraiment international.
Et qui est l'école aussi de rigologie maintenant, où je me forme à la rigologie.
Et donc, tu es
rigologue.
Rigologue. Exceptionnel. Hey, Blabla Mix, c'est le 30e numéro. C'est né un jour sur une murette avec sous le soleil Richard, Dipu, Shumon, Anne, Catherine, Gaufrette, Véronique et Aïssam. Sachez d'ailleurs, mon cher Pascal, que Aïssam attend toujours son statut de réfugié. Comment dit-on bonjour en soussou, Sylla?
Bonjour en soussou, Eken.
Donc, Sylla, vous êtes de Guinée-Conakry?
Bien sûr.
Qu'est-ce que vous faisiez le 23 avril 1990? Vous pouvez me répondre en soussou, les auditeurs comprennent.
23 avril 1970, on va dire en soussou. En soussou, Tongo Souli, Tongo Souli.
En Guinée-Conakry.
Sarah, oui.
En Guinée-Conakry, vous êtes de quelle ville?
De Conakry, capitale kenyan. Mm-hmm. Oui.
Et qu'est-ce qu'on fait le dimanche?
Dimanche, bring mini money, c'est que c'est manière. Après, esga makiti, et dossier Sara, et fara bangri, et préparer. Dimi dégué, fouri dégué, ou bien, ou sega, ou sawa, miri, rebou, après, ou mari, tout rabat, ou bilé.
Alors, faut pas oublier le sel, le poivre, et puis également les oui. fleurs, c'est.
Oui, sel, on peut dire en sous-sous, forêt, kobokobwe, yébé, on s'appelle yébé, mayon, oignon, mais en sous-sous, c'est yébé. Poivre, on peut dire en sous-sous kobokobwe, sel, on peut dire en sous-sous forêt.
Mais donc, si jamais on est invité chez vous pour, oui. Pour manger, qu'est-ce qu'il faut apporter?
Bon, pour apporter pour les Françaises, je vais préparer. Préparation, c'est quoi en sous-sous? Enseigner au bain après conquête tous les belis.
Conquête tous les belis?
Oui.
J'aime beaucoup.
Echt waar? Ik begrijp niks van. Echt niks van. Wat zegt hij allemaal?
Un jour, il m'a tendu les bras.
Echt waar?
Et toen? Et le bateau est arrivé. Mohamed surgit et me dit.
Oui.
Je lui dis.
Oui.
Welke boot?
Non.
Welke boot? Non.
Mais pourquoi? Les tulipes sont cuites.
Dat is waar.
Helga, évidemment, vous en avez ras-le-bol quand vous parle de tulipes. C'est pas parce que vous êtes hollandaise.
Dat klopt.
Que vous aimez les tulipes.
Ik hou van tulpen. Ze zijn prachtig.
Est-ce que vous avez quitté votre gouvernement en courant?
Ja. Ik woon hier permanent in Frankrijk.
Pourquoi?
Het is hier zo mooi. De mensen zijn hartelijk. De natuur is prachtig.
Ah oui.
Ja.
Et en français?
Alors en français, ça veut dire que la nature est magnifique, les gens sont très gentils, très accueillants, et j'aime bien la liberté et l'espace en France, c'est ça. C'est pour ça que j'ai quitté le pays, Pays-Bas.
Vous ne vous sentiez pas libre aux Pays-Bas?
Il y a trop de personnes sur une petite surface, c'est ça surtout. Et on se sent oui, un petit peu coincé, on va dire comme ça. Oui.
Sylla, est-ce qu'il y a assez d'espace en Guinée-Conakry ou à Conakry?
Ouais, Kenegbibinana, comme on dit espace, Kenegbibinana, au nom de l'oudi d'endere, après, au siga, au fait yalan, au nom de organisation, fait yalan, c'est organisation.
Et en français?
En français, organisation.
D'accord.
Mais en sous-sous, fait yalan, au fait yalan.
Oui. Mohamed,
oui.
Qu'est-ce que tu préfères, l'espace ou la liberté?
Bon, l'espace.
L'espace?
Oui.
Tu n'avais pas assez d'espace à la maison, chez toi?
Ici ou dans mon pays?
Dans ton pays, puis ici.
Du coup, dans mon pays, j'ai beaucoup d'espace, mais du coup, en France, je n'ai pas beaucoup d'espace. Parce que, bon, dû à ma situation, là... je suis venu ici, bon, en fait, je peux dire que bon, je pas de logement, c'est ça. Dans mon pays, là-bas, je suis là-bas, je suis tranquille, il y a beaucoup d'espace, je sors nuit et jour, comme il faut, je rentre à l'heure que je veux, je sors à l'heure que je veux, je fais tout ce que je veux, comme de ma manière. Mais là, c'est le contraire pour le moment.
Mm-hmm.
Oui.
Mais alors c'est étrange d'avoir quitté la liberté et d'être venu trouver la contrainte.
Ben oui, bon, en fait c'est pas une étrange de quitter de la liberté, de venir ici pour la contrainte. C'est juste une cause bien déterminée qui m'a fait pousser de quitter le pays pour venir là.
Le pays c'est quoi?
Bon, du coup bon, bien.
Quel pays? On le dit pas.
De la Guinée, Guinée.
Ah pardon.
Oui.
Et la cause? On l'a dit pas.
Bon, si je peux dire,
okay.
Je peux me réserver dans ça, parce que vous voulez que je dise ou quoi?
Oui.
Bon, dans le pays.
Si vous voulez.
Bon, en fait, je peux dire un peu, mais je ne peux pas tout dire.
Un petit peu.
Ok, bon, il s'agit de la politique. Ouais.
La politique, ouais. C'est aquatique. C'est certain, c'est sympathique.
Ouais.
C'est dimanche, 7 mai. Deuxième tour. Vous avez remarqué Mohamed, j'ai dit Mohamed, j'ai dit tu. Et ça, c'est flagrant, c'est la culture française.
Oui.
Le blanc tutoie le Mohamed. Et je ne suis pas fière. Je pense qu'on pourrait mettre un peu de musique, histoire de se détendre, même si ce n'était pas prévu. Puis, nous accueillerons Rita, qui a un invité important. Vous écoutez Radio Canu Rebelle. Ah, Erita.
Bonjour.
Cybèle, bonjour.
Bonjour à tous, bonjour Véronique.
Alors aujourd'hui, eh bien, vous avez amené sous le bras un homme qui est fêté. Et il est important pour vous, à toutes les personnes qui sont ici. Pourquoi c'est un homme important?
Oui.
Est-ce qu'il est riche?
Oui, très riche. Je vous présente Paul Moreau, un bénévole de CPU, qui va nous parler de la fête de 13 ans de CPU. Bonjour.
Oui, bonjour Rita, bonjour à tous, merci de m'avoir invité.
Bonjour Paul.
Alors CPU, ça veut dire coup de pouce universitaire, voilà. Et on accueille des étudiants de tous les pays, pour les aider dans leurs travaux universitaires, des dissertations, des mémoires de master, des thèses de doctorat, entre autres. Et il y a beaucoup d'activités, d'ateliers de toute nature dont on pourra reparler si tu veux.
Ouais. Le 13 mai sera le 10e anniversaire du CPU. Et il y aura une fête et maintenant vous êtes en train de préparer pour la fête avec les étudiants. Et vous pouvez nous parler de la fête et le programme de la fête?
Oui, alors donc c'est une fête qui a lieu rue Sainte-Hélène, l'espace Saint-Marc, c'est tout près de Bellecour. Donc ça va durer toute l'après-midi de 14h à 19h. Il y aura une salle d'exposition sur l'histoire du CPU, sa vocation, ses objectifs. Des spectacles avec des groupes de tous les pays, Madagascar, Mexique, des chanteurs japonais. Il y a même une organiste japonaise qui est au conservatoire, qui va jouer dans une chapelle qui se trouve juste à côté. Et puis, il y aura des stands, une douzaine de stands, toute l'après-midi, où les étudiants apporteront des cartes, des posters, et aussi de quoi manger du thé. Il y a beaucoup de salons, d'ateliers de thé qui vont être organisés cet après-midi-là.
Et de la drogue, on a le droit?
C'est pas sur entre dans les ateliers.
Quelles sont les nationalités des étudiants qui vont participer ou qui existent au CPU, normalement?
Alors, on a 80 nationalités pour 800 étudiants. Et les stands, bon, il y aura surtout la Chine, Taïwan, la Corée du Sud, l'Afghanistan. Il y aura les pays hispanophones aussi de l'Amérique latine. Il y aura aussi l'Iran, la Syrie.
La Syrie.
Voilà, avec Rita.
Ça fait 10 ans, c'est l'anniversaire de 10 ans du CPU. Et comment vous pouvez évaluer l'expérience de CPU? Ça vous satisfait?
Ah oui, bien sûr, nous sommes satisfaits, nous les bénévoles, et puis aussi les étudiants. Alors d'ailleurs, pour la fête, on a prévu en boucle une série de témoignages d'anciens étudiants qui nous envoient des selfies, comment dit-on, des selfies télévisées, enfin voilà, avec, qui parlent devant nous. Mm-hmm. Et donc on aura à peu près une trentaine de témoignages, et les étudiants nous disent combien ils ont aimé le CPU, combien ça leur a apporté dans leur vie professionnelle. Il y a beaucoup d'enseignants aussi qui vont enseigner le français, par exemple.
Et qu'est-ce qu'ils font, ces étudiants, par qui sont passés
alors,
par
donc,
chez vous?
Alors, donc, il y en a qui sont dans l'enseignement, il y en a qui sont dans la banque, il y en a qui sont dans l'administration. Donc, les étudiants qui sont passés par chez nous ont été inscrits dans différentes universités ou grandes écoles de Lyon.
Parlez bien du micro.
Voilà, donc c'est une des conditions. Mais nous avons aussi, d'ailleurs, nous accueillons de nombreux étudiants demandeurs d'asile. Je crois que ça intéresse plusieurs qui sont ici. On en a parlé tout à l'heure. Donc des jeunes gens qui sont demandeurs d'asile et qui apprennent le français à haute dose avec des cours intensifs.
Vous avez dit que le CPU vise à aider les étudiants et surtout les étudiants étrangers à leur vie universitaire. Et quelles sont les activités, les domaines?
Alors les activités, bon d'abord c'est l'apprentissage et l'amélioration du français avec des ateliers. Mais on a aussi des ateliers d'anglais, d'espagnol. Moi, personnellement, c'était mon métier. J'anime un atelier de philosophie. Voilà, donc c'est très apprécié par des étudiants qui, dans leur pays, n'ont pas l'habitude d'une pensée critique. Donc, on réfléchit de façon rigoureuse et critique sur certaines choses. Et puis, il y a tout le suivi personnalisé, notamment pour les thèses. Alors, on a de nombreux étudiants qui sont inscrits en thèse. Et là, c'est une collaboration très intéressante et qui permet aux bénévoles de découvrir des domaines tout à fait passionnants, puisque beaucoup travaillent sur leur pays. Et par exemple, une étudiante chinoise qui travaille sur le corps dans le cinéma chinois contemporain, une étudiante iranienne qui travaille sur la censure dans le cinéma iranien. Donc on échange beaucoup dans ce travail d'aide, c'est une aide mutuelle, c'est un échange. Et c'est un petit peu le but du CPU. Mmh.
Mmh. Quelles sont les difficultés, les problèmes auxquels vous faites face depuis 2 ans jusqu'à maintenant pour réaliser votre but de CPU?
Peut-être l'un des principaux problèmes, c'est que nos locaux sont un petit peu étroits. Donc on a 2 grandes salles de cours, on a des petits box dans lesquels on se réunit à 2 ou 3. On est obligé de prendre la salle informatique pour toutes les... ce qu'on appelle les travaux à 2, le suivi de thèses. Donc on est un petit peu à l'étroit maintenant pour accueillir nos 800 étudiants.
Et on va parler un petit peu de votre expérience personnelle au CPU. Vous êtes bénévole au CPU depuis quand?
Alors moi j'ai commencé il y a 4 ans. Voilà. J'ai commencé en fait en proposant mes services pour des balades lyonnaises pour les étudiants étrangers. Donc j'ai commencé à faire des balades de la Croix-Rousse, les pentes notamment, Fourvière, le Vieux-Lyon, la Presqu'île. Et puis après, j'ai accepté de suivre des étudiants pour leur thèse. Et puis ensuite j'ai proposé un atelier de philosophie.
Et je pense que les étudiants deviennent des amis avec les enseignants, les bénévoles au CPU. À quoi ressemblent les relations entre les bénévoles et les étudiants là?
Alors, des relations pendant qu'ils sont présents, sur place. Bon, déjà, il y a une convivialité, puisque à midi, tout le monde est invité à manger. Chacun apporte quelque chose, on partage. On est 20, 25, voilà, tous les jours. On invite souvent les étudiants à la maison. Et puis, après, les liens se poursuivent. Il n'est pas rare que des bénévoles soient invités, ensuite, à partir en Chine, partir au Brésil, en Iran. Et donc, des liens se poursuivent qui sont très, très chaleureux.
Et vous pouvez nous rappeler de l'adresse et l'heure de la fête pour ceux qui sont intéressés?
Oui, alors donc, c'est une fête qui a lieu, donc, Espace Saint-Marc, 10 rue Sainte-Hélène. C'est tout près de Bellecour, je disais. Alors, pour des raisons de sécurité, on demande qu'on puisse fournir une invitation, mais il est tout à fait possible de la demander. Et donc, je vous donne au passage, j'en profite pour vous donner l'adresse du CPU. 1 rue de Bonald, c'est en fait à l'angle du cours du quai Claude Bernard, en face de la piscine à peu près. Donc, 1 rue de Bonald, vous pouvez passer dans le 7e arrondissement, en pleine Guillotière. Donc, si vous passez par là, vous frappez et vous demandez un carton comme celui-ci. Et on vous le donnera bien volontiers.
Il est beau, le carton.
Un carton, mais ça peut être une photocopie aussi.
Pour conclure, vous êtes philosophe. Quelle est votre philosophie?
Ma philosophie, c'est la réflexion critique sur toutes les questions qui se posent bon, je ne veux pas dire quel auteur, parce que ça n'intéresserait pas forcément vos éditeurs, mais une réflexion critique sur la vie. Et la spéculation vient plus tard, si nécessaire, mais d'abord réfléchir sur la vie, à tous les niveaux, la vie personnelle, la vie collective.
Et vous, j'imagine que vous avez réfléchi, alors donc, quelle est votre philosophie de la vie ?
Ah ben, j'ai déjà un âge fort avancé, déjà j'ai bientôt fêté un passage de décennie, la semaine prochaine.
Profitons de votre sagesse.
Ah, quelle sagesse ! Vous savez, la philosophie, c'est une recherche de la sagesse, on n'a jamais terminé. Et un grand philosophe disait, philosopher, c'est apprendre à mourir.
Apprenons à mourir. Wouhou ! Si vous nous rejoignez, c'est Blabla Mix, c'est la 30e et c'est Daft Punk qui nous accompagne tout au long de l'émission 30e, 30 ans déjà. Asma, salut, qu'est-ce que tu fais en fait lorsque tu entends de l'électro, tu danses comment ?
Salut tout le monde.
C'est quoi ? Sur l'électro qu'on entendait là, est-ce que toi ça t'inspire ? Est-ce que tu danses ? Est-ce que tu vas danser ?
Ouais, j'ai envie de danser en fait. J'ai trop aimé la chanson.
Mais tu n'as pas bougé ? Tu n'as pas bougé ton bras, ton poignet ? Pas bougé une oreille ? Rien ?
Parce qu'hier, j'ai les cours de danse, il y en a trop dansé la danse africaine et ça prend beaucoup de force et beaucoup d'énergie avec celle-là.
Ça part d'où la danse africaine dans le corps ?
On a utilisé tout, on a dansé avec le cœur, on a utilisé les mains, les pieds, on a partagé des moments avec cela. La danse africaine, c'était vraiment super.
Elle s'appelait comment cette danse ?
La Doum Doumba.
Ah, donc vous poursuivez, c'est la Doum Doumba, stade 2, stade 3. Doum Doumba.
Ouais.
Doum Doumba.
Ouais.
Doum Doumba.
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 Asma vous attend. C'est combien de fois par jour ton atelier, Asma ?
Non, en fait, c'est deux fois par mois.
Le prochain ?
Le prochain, c'est le 27 mai.
Au programme ?
on va découvrir le folklore tunisien.
Car tu es algérienne.
Non, tunisien. Bah, y avait des femmes, ils m'ont parlé de folklore tunisien. Parce qu'on a fait l'oriental, ils ont trop aimé. Ils m'ont demandé de folklore tunisien, donc on a programmé le 27 mai.
Et alors ce folklore tunisien, je croyais que tu l'aimais pas.
Non.
Enfin que tu voulais danser autre chose.
Non, moi j'aime tous les styles. En fait, moi je vais présenter le folklore tunisien et surtout le mezout. C'est quelque chose qui est très en danse en Tunisie, on l'aime beaucoup.
Le mezout.
Mezout.
Le mezout.
Le
mezout.
Mezout.
Mezout. Mezout. C'est quoi le mezout?
C'est un style de danse que surtout les mecs ils aiment bien. On dirait qu'ils sont dans le ciel en fait. Ils dansent d'une façon, on dirait qu'ils sont pas dans la terre. Ils aiment beaucoup. Voilà, le mezout,
c'est une transe.
Non, c'est exceptionnellement, c'est un style, tu peux le trouver en Tunisie. Et puis voilà, je vais vous découvrir.
Oui, mais comment font-ils pour monter dans le ciel, pour les auditeurs là qui voudraient s'entraîner?
Je ne sais pas, c'est quelque chose vraiment, c'est comme une bague magique. Tu vois, quand il entend le mezout, tout le monde, ils viennent sur scène, ils dansent. Okay. Femmes, hommes, enfants, tout le monde. En fait, tu trouves personne
qui reste assis.
Ouais, ouais.
C'est un peu comme l'andrew chez les Bretons.
C'est la folie de la Tunisie, le mezout.
Alors comment on repère le mezout? Imaginons que nous, on entende par hasard dans un bar le mezout. Est-ce que tu peux nous fredonner un air?
Bah, ça arrive, c'est doucement. Et puis ça... Oh. Ça arrive, quoi.
Et okay. Quand ça arrive, ça fait comment? Non.
Non, ça, c'est pas ça, mais en fait...
Une flûte avec...
Vas-y, Abdelaziz.
C'est un grand tambour et une flûte.
Ok.
Et il commence dans un rythme de... un rythme trop trop fort pour les mecs tunisiennes.
Donc, on aura la chance de pouvoir s'envoler. Chanson. Oui, chanson. Attention. Asma, va chanter.
Bah, je vais essayer. Aïrouni bik ya hamma, aïrouni bik ya hamma, aïrouni bik gultilhum, men sallam fik ya hamma, men sallam fik ya hamma. شرب شراب يا حما شرب شراب يا حما شرب شراب قلت لهم تيش الشباب يا حما تيش الشباب يا حما. Voilà, ça commence doucement comme ça et puis
bravo. Bravo Abdelaziz, bravo Asma, magnifique.
Merci.
Alors,
Le 27 mai, le folklore tunisien.
On apprend la danse du folklore tunisien. À quel endroit?
De Centre social Bonfoy, Guttière, de 14h à 16h.
Et on s'inscrit?
On est la fin de l'année, c'est ouverte pour tout le monde. Bienvenue.
Super. Et alors, après, est-ce qu'il y aura la chance de voir ces ateliers dans une restitution de spectacle?
Ouais, c'est en fait le dernier cours de danse. On va faire un petit spectacle. Ce qu'on a fait, en fait, dans l'atelier, comme danse syrienne, d'Abka, la danse afghane, la danse africaine.
La danse afghane, elle s'appelle comment?
Bah, la danse
afghane.
La danse afghane, ouais. La danse africaine aussi. Et le folklore tunisien, voilà.
Et la danse du Bangladesh, Dipou. Pourquoi tu ris, Dipou, dans le dos d'Asma? J'aimerais savoir.
Non, je ris. Parce que à tout à l'heure, il donne le cours comment on rit, c'est ça. Alors maintenant, je ris.
Tu appliques, tu as bien appris ta leçon.
Oui.
Une danse du Bangladesh traditionnelle, ce serait comment? Est-ce le nom?
Comment on dit? Danse du Bangladesh.
Ben c'est ça, c'est simple.
C'est comme la danse d'Afghanistan, ça ressemble. Eh bien Asma, merci beaucoup, ce chant était magnifique. Et Abdelaziz, je ne savais pas que tu faisais les chœurs. Il faut vous dire que Abdelaziz fait partie de l'équipe de Blabla Mix. Ça fait 6 mois qu'on ne l'a pas vu, mais nous sommes ravis de te retrouver.
Merci, Véronique.
Alors, Abdelaziz, pendant que je te tiens, on entend... Pendant que je te tiens, quelle est la différence entre Mohamed VI et Hassan II?
Hassan II, il est âgé, Mohamed VI, c'est les autre génération, autre chose.
Mais il y a un dicton marocain.
Oh, je crois pas, non.
Non,
il
n'y a pas.
Non.
Non. So, Abdelaziz, comment vas-tu?
Ça va, merci.
Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Qu'est-ce que tu as fait tout ce temps?
Je suis responsable d'un atelier de Singa Blabla.
Ah!
J'ai pas le temps pour venir, j'ai pas assez de temps.
Mm-hmm. Donc Singa Blabla, c'est lequel? C'est donc organisé par Singa pour aller exercer son français lors de conversations.
On fait beaucoup de conversations, on fait du jeu de société, on casse plus de barrières. C'est une excuse pour rencontrer les francophones avec nos francophones.
Mm-hmm. Et ça marche bien?
Oui.
Est-ce que les gens se rendent compte vraiment? Parce que toutes ces personnes dans un lieu fermé, c'est un peu intimidant. C'est intimidant?
Ça va.
Les baisses.
Les baisses. On casse les barrières.
On casse les barrières. C'est super, Peggy.
On voyage, sans billet.
Exactement. Peggy, est-ce que tu aimes voyager?
Beaucoup, sauf que je n'ai pas les moyens pour beaucoup voyager. Sinon, j'aime beaucoup voyager, oui.
T'aimerais voyager où?
Aller dans d'autres pays anglophones, surtout. Parce que, voilà, je suis aujourd'hui en France, c'est un pays francophone. Et mon pays aussi est un pays francophone. Donc maintenant, je vais être... Je vais aller dans un pays anglophone, peut-être pour apprendre aussi un peu à parler anglais.
Ce serait lequel?
L'Allemagne, par exemple. Si c'est un pays
l'Allemagne?
Oui.
On parle allemand en Allemagne?
Oui, on parle allemand, mais bon...
Mais anglais aussi?
C'est ça.
Bon. En tout cas, ça tombe bien, tu as une prof d'anglais à droite, une future, parce que la grecque, on va l'entendre dans un instant. Mais en face de toi, il y a un homme jeune, grand, avec un casque sur la tête, c'est normal, il est dans Blabla Mix et une montre au poignet. Et tu as quelques questions.
Oui, il s'appelle Yannick. Yannick, je te laisse te présenter le nom. Tu es qui, Yannick?
Ouais, en fait, moi, bonjour d'abord.
Bonjour.
Ouais, moi, c'est Yannick, je suis...
Bonjour, Yannick.
Bonjour. En fait, moi, je suis Yannick, ou Yannick Wabi. Je suis un demandeur d'asile.
Et tu viens d'où?
De la Centrafrique.
D'accord. Et c'est quoi ton rêve?
Pour le moment, dans l'avenir, je préfère être un magistrat, c'est tout.
Être magistrat?
Oui.
Quel genre de magistrat? Avocat? Non, juge? Non, magistrat?
Magistrat, oui.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'est un magistrat?
En fait, un magistrat, c'est celui qui donne en fait, des décisions sur un procès ou bien...
D'accord. Et ça fait combien de temps tu es en France, Yannick?
Un an et six mois déjà.
D'accord. Tu es demandeur d'asile. Comment ça se passe? Comment tu vis la vie d'un demandeur d'asile?
Ouf. En fait, au début, c'était même pas facile pour moi. C'était vraiment pénible pour moi au début. Bon, comme je suis déjà habitué, là, je m'adapte pour...
Tu es habitué à la galère.
Ouais, c'est ça.
Et quels sont les problèmes, quelques-uns, que tu as rencontrés?
Particulièrement, j'ai aucun problème. Donc, mon souci, c'est seulement de m'inscrire à l'université, c'est tout.
Oui, ce que tu n'as pas pu faire.
Parce que je suis en demande, d'asile, donc j'ai pas encore eu de réponse, donc c'est ça que...
Donc, vous n'avez pas le droit d'étudier.
Oui,
vous n'avez pas le droit de travailler.
Ni de travailler, ni d'étudier aussi.
Vous n'avez pas le droit d'aimer.
Non, ça, je peux le faire. J'ai le droit d'aimer.
Vous n'avez pas le droit de penser.
J'ai le droit de penser.
Mais la pensée est ralentie quand même.
C'est ça. Ouais.
Car quand vous êtes demandeur d'asile, eh bien, vous devez aller au PADA, guichet unique, OFPRA, procédure accélérée, procédure normale, entretien OFPRA, décision, rejet, accord OFPRA, décision, rejet, CNDA. Ah, vivement que vous soyez magistrat, Yannick.
Merci, mon sourire.
L'échelle ne s'appuie pas autant que la vigne vierge. Ici demeure mon vieux professeur de grec. Céline Autin, bonjour.
Bonjour, bonjour Blavlamix.
Céline, nous... Bonjour Céline.
Bonjour Céline.
Céline, nous t'avions invitée il y a quelques mois. Et il faut dire que tu es venue alors que tu passais la grecque d'anglais, enfin que tu révises, hein, c'est pas encore fait.
Ça y est, j'ai passé les écrits. Donc...
Elle a passé les écrits, ça s'est bien passé?
Ben manifestement oui, puisque j'ai appris qu'il y a deux jours j'étais admissible à aller passer les oraux. Donc...
Bravo! Ah non, mais génial! C'est la première fois que tu passes la grecque et t'es admissible?
C'est la première fois, oui.
Et quelle a été la question piège dans les examens?
C'était surtout des épreuves pièges en l'occurrence, dont une assez méchante sur les républicains aux États-Unis. Déjà un sujet assez mauvais en l'occurrence, et on s'est tous un petit peu cassé la figure dessus, mais bon, on a assuré quand même.
Et comment fait-on? Ils proposent des sujets d'actualité. Est-ce qu'on peut se lancer?
Non, il y a des programmes qu'il faut préparer toute l'année. Et là, c'était pas du tout de l'actualité en l'occurrence. C'était une perspective historique en fait. C'était de la civilisation américaine. Ouais.
Et quel métier veux-tu faire?
Alors, moi, finalement, je ne serai pas prof d'anglais, enfin, j'espère. J'aimerais beaucoup plutôt être journaliste.
Quel genre de journaliste?
Du journalisme, comme on peut en faire ici à Blablamix, par exemple, du journalisme d'entretien ou du journalisme de reportage ou de documentaire. Parce que c'est dans les reportages et les documentaires qu'on va aussi à la rencontre des gens, de personnes intéressantes, qu'on découvre de nouveaux horizons et qu'on partage ça surtout, puisque pour moi, avant tout, la radio, c'est du partage.
Et as-tu rencontré des gens lors de documentaires quand tu étais passée? On a passé un extrait d'une interview en anglais. Il me semble me souvenir que tu étais dans une voiture avec une Anglaise. Et c'était à Calais. Que te disait cette Anglaise?
Oui, alors on était dans une camionnette, on était sur le chemin pour aller faire une distribution de dons, etc. Et donc j'ai rencontré Tina qui m'a raconté qu'elle, c'était environ sa troisième semaine dans le camp. Mais c'était pas la première fois qu'elle était là, il y avait déjà passé des mois avant. Donc voilà, c'était une femme d'exception, une femme de poigne qui se frayait un chemin dans le camp, mais que tout le monde connaissait et qui était animée d'une force absolument incroyable et d'une énergie et qui m'a tout raconté et qui m'a vraiment emplie d'admiration.
Et qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce qu'elle vous a raconté ?
Sans doute, alors on était un petit peu sur la fin là, du camp et elle-même avait ressenti ce changement un peu d'atmosphère. Bon, on était en novembre, donc déjà il faisait très très
2016. Mauvais.
2016. Les conditions étaient assez exécrables ce jour-là et puis après l'hiver aussi qui s'ensuit. Elle m'a raconté à quel point le camp avait grandi et à quel point malgré tout la vie s'organisait avec des gens qui avaient monté des petites échoppes, des restaurants, etc. Mais à quel point tout était précaire aussi. Et du jour au lendemain, un feu, un incendie ou des descentes de police pouvaient tout balayer. Donc voilà, à la fois cette force et puis à la fois le fait de se dire que finalement tout ça n'est que du temporaire et que ça ne doit rester évidemment que du temporaire, mais que les personnes dans le camp n'avaient pas vraiment de futur devant eux, de futur clair.
Quand une journaliste rencontre une autre journaliste, Anne, bienvenue.
Merci.
Tu es déjà allée à Calais ?
Oui.
Alors, vous allez parler en connaissance de cause, mesdames. Je vous laisse.
En fait, moi, je voulais interpeller Céline plutôt en tant qu'auditrice de Blabla Mix, qu'elle est aussi. Et c'est notre auditrice fidèle depuis les débuts qui tweet en nous encourageant tous les dimanches, ce qui nous fait bien plaisir et ce qui nous soutient. Pourquoi tu es aussi assidue à nous écouter, Céline ? Qu'est-ce qui te plaît, en fait, dans Blabla Mix comme auditrice ?
Alors j'ai déjà écouté par curiosité et grâce à Léna, je dois dire. Et puis, de fil en aiguille, je me suis laissée happer par l'énergie que j'ai retrouvée tous les dimanches, l'optimisme malgré les épreuves et malgré le fait que on entend un petit peu tous les dimanches où les gens en sont dans leur demande de papier par exemple, mais justement parce que au fil des épisodes vous êtes devenus des voix qu'on a envie de suivre, vous êtes quasiment devenus mes amis alors que je vous ai vu que deux fois peut-être, donc j'ai envie de vous retrouver tous les dimanches et aussi parce que à chaque fois il y a du décentrement, j'entends des mots que je ne comprends pas et moi les langues étrangères ça me parle mais c'est des mots que je ne comprends pas, mais justement pour la pure matérialité de ces mots, pour juste ce qu'on en fait au niveau poétique, c'est beau Blabla Mix. Donc voilà, c'est pas simplement des entretiens, c'est pas simplement l'actu des réfugiés, c'est aussi quelque chose de plus que ça, c'est de la poésie.
Je propose qu'on fasse des gros bisous à Céline.
Et alors, celui sans qui on ne serait pas là aujourd'hui et où Céline t'aurait pas eu le loisir d'écouter cette émission tous les dimanches, nous a rejoint. Richard, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est un peu né dans ta tête, en parallèle dans celle de Véronique aussi, et puis vos deux idées se sont rencontrées. Comment est venue pour toi l'idée de faire cette émission de radio au départ ?
J'ai toujours j'ai soin des problèmes que j'ai rencontré quand je suis venu et quand j'ai raconté l'année dernière avec toi et Véronique. Et après, j'ai trouvé une idée, c'est comme radio, c'est un moyen de partager et pour monter donner des informations, des situations, des vraies situations à Lyon. Et comment des jeunes comme moi vivent, comment ils ont passé son temps et tout. Et oui, et après on était en vacances, je pense, non?
Quand on l'idée est venue, on était tous en vacances ensemble.
Et j'ai juste, quand j'étais au Bangladesh, normalement j'ai toujours à faire des choses comme ça. Pas à radio, mais avec quand j'ai trouvé vous et... j'ai juste dit mon idée, mais j'ai jamais pensé que c'est possible.
Que ça allait devenir réalité.
Avec des idées, je pense, mais j'ai jamais pensé que ça va possible.
Idée à la minute, et puis celle-là, elle est devenue réalité, quoi.
Oui, mais après, dommage, c'est parce que quand j'ai commencé comme un projet, Blabla Mix, on a commencé, mais. J'étais libre, j'ai pas autre projet. Mais après, j'ai trouvé mon autre projet qui, je pense, c'est mieux pour moi.
Mais tu as été là aux origines de Blablamix. Heureusement, dès le début, il y avait aussi Schumann et Dipou qui étaient là et qui, eux, ont pu rester. Et toi, justement, on t'a vu aux deux, trois premières émissions, puis depuis, on t'a presque plus vu. Raconte-nous un peu, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans la vie ?
Maintenant, j'ai juste fini mon stage
de
cuisine, la formation de cuisine. C'est mon dernier mois. Je finis la formation d'en juin. Sur ma fin de mois, fin de mai, j'ai un examen. J'espère que je passerai.
Donc tu passes ton CAP cuisine en fait.
Oui, après ça. Je passe mon CAP cuisine et maintenant je cherche travail et j'espère quand je finis avec des diplômes et mon expérience de stage et tout. Je trouve là un travail. Oh.
Et puis, il y a eu aussi des bonnes nouvelles, parce que Céline disait tout à l'heure que parfois on raconte que c'est difficile, les papiers, tout ça. Toi, sur le plan des papiers, ta situation est bien meilleure qu'au début.
Oui, c'était une chance. Je ne sais pas comment... Comme on dit, c'était passé bien. Comme on dit, mais parce que j'ai vu beaucoup de gens, j'ai beaucoup des amis ici qui ont encore des problèmes et qui sont bloqués avec des administrations et tout. J'ai vu beaucoup de problèmes, mais j'ai jamais avoir des problèmes comme ça. J'ai pas attendu j'ai donné mon interview en opéra, c'était trop vite. Et après, petit à petit, je sais pas si j'ai trouvé la formation. Mais pour moi aussi, j'ai toujours en train de chercher des choses. Comme j'ai raconté avec vous, après j'étais à Saint-Pierre, j'ai vu il y a porte ouverte pour la formation. Et j'étais là, j'ai demandé et j'ai trouvé. Peut-être. Je pense qu'ici, si vous cherchez des choses qui, après, vous envie dans la vie. Alors peut-être c'est possible pour trouver, mais quelquefois ça prend temps et quelquefois c'est facile.
Non, mais il faut beaucoup d'énergie. Aujourd'hui donc tu as ton statut de réfugié, ta carte de 10 ans, et puis dans quelques années tu vas demander à devenir français, c'est ça ?
Oui, j'espère. Je le vois après le vote.
Merci Richard.
Une dernière question. Quelles sont ces clés que tu as dans ta poche ?
C'est...
Ah oui.
Semaine dernière, j'ai reçu mes clés de l'appartement. C'est un Lyon 3.
Et c'est la première fois de ta vie que tu as un appartement à toi tout seul, je crois.
Ouais.
Ça fait quoi dans la tête, on se sent comment?
Ah, oh, moi je suis content. Franchement, c'est parce que ça fait longtemps que j'ai perdu des routes comme un arbre.
Tes racines.
Tes racines. Et j'ai perdu ça et maintenant je pense que j'ai trouvé. Et ça me donne une confiance que je moi suis ici à Lyon à avoir comme on dit le become lyonnais, je sais pas
oui,
comment
tu
dire,
es devenu lyonnais.
Devenu lyonnais, oui. Et oui, ça donne mon comment dire le pêche pour faire des choses mieux.
Merci Richard le Lyonnais.
De rien, merci beaucoup.
On va reprendre ça. Vous avez tellement bien fait qu'on est obligé de reprendre tout petit.
Ngualo, Wayuka.
Ingualo,
Wayoka,
Bayaya Bayaye, Bayaya Bayayo.
Nous allons voyager à travers cette petite rubrique qu'on a intitulée Léo, le lion qui compte à Radio Kanyu. Dans ma langue, on dit souvent Tchiri Tinsamu Tchalumbimbimba. Yalumbimbimba Uri Muchina, Muchina Wafiuti Chifuani Changongolo. Yalumbimbimba. Eh. Bukasa. Après, Ujidia Makaya Mamansuni. Kamu Nansuni Jina. Wajoka. Boka joka. Kiri. Boka jilomba lemvu. Wajizanabinku tibia mwona waka lombembemba. Ce qui traduit veut dire, il était une fois une petite fille très très belle. Elle était choyée, chouchoutée par ses parents jour et nuit. Cependant, il est à noter que cette petite fille était tellement capricieuse qu'elle exigeait toujours un peu plus de ses parents. Bon, elle ne fait pas exception. Peut-être ici à Lyon aussi, il y a des petites filles qui font la même chose. Mais elle ajoutait quand même une petite dose au-dessus. Sur ses caprices, elle se vengeait aussi contre ses parents en détruisant tout sur son passage. Et surtout, le petit jardin potager qui était dans l'angle de la maison en payait bel et frais. Et un jour, ses parents décidèrent de faire un petit voyage. Mais de coutume, ses parents se sont occupés de lui. Mais elle n'était pas contente du tout. Ses parents sont partis pour un long voyage et l'ont laissée. Et elle, pour se venger, nous l'avons dit que cette petite, elle était très capricieuse, elle se mit à saccager, à arracher et à manger les feuilles de son jardin potager. Et il n'y restait plus aucune feuille sur les arbres. Notez bien ce détail qu'il n'y restait plus aucune feuille sur
les arbres.
Oh là là, quelle petite fille, très belle en plus.